الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لونجا الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblés de ces rencontres à travers cette radio du centre Al-Furqan de Bruxelles, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense notre frère Abdelrahman le Camerounais qui est à l'origine de cet événement, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège et vous préserve ainsi que votre centre des manipulateurs et des perturbateurs et des opportunistes, et qu'il nous raffermer tous sur la voie de nos pieux prédécesseurs, Ridwanullah alayhim, et qu'il raffermit toute cette jeunesse salafi de Belgique et d'ailleurs sur la vérité jusqu'à la fin de leur vie. Et bienvenue aussi à nos frères et à nos sœurs auditeurs et auditrices sur les ondes de la radio Merkez Al-Furqan. Et ceci dit, louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de la soumission, et pour le bienfait de la sunna, et pour le bienfait de la voix de nos pieux prédécesseurs, ridwanullah alayhim. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses sublimes noms et ses nobles attributs d'allonger notre vie et de vivre le mois de Ramadan qui arrive, et de nous donner la force et la capacité à tous de le jeûner et d'accomplir les prières nocturnes durant ce noble mois de Ramadan dans la sincérité et dans le suivi et parfois en Allah subhanahu wa ta'ala, et dans l'espoir d'être comblé par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah nous a clarifié que le pardon des péchés découle de la sincérité, c'est-à-dire de ce que renferment les poitrines, ce que renferment les cœurs. Dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde des imams de l'islam, Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardah a dit que le messager d'Allah a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et avec espoir d'avoir les récompenses d'Allah, ses péchés lui seront pardonnés. Bien sûr, il s'agit ici des petits péchés, des péchés mineurs, et non pas des péchés majeurs, car les péchés majeurs ont besoin d'une expiation spécifique. Et l'autre hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque célèbre les actes d'adoration tels les prières nocturnes, la lecture du Coran et autres, la nuit du destin avec foi en Allah et espérant la récompense d'Allah, Allah lui pardonnera ses péchés passés. Le hadith il est rapporté aussi par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Et bien sûr, comme je l'ai dit ici, ce qui va être pardonné, ce sont les péchés mineurs. Quant aux péchés majeurs, ils ont besoin d'un repentir spécifique. Et cela est prouvé par la parole du prophète alayhi salatu wassalam chez l'imam Muslim. Le prophète a dit: l'accomplissement des cinq prières, l'accomplissement de la prière du vendredi jusqu'au à l'autre vendredi, le jeûne du mois de Ramadan jusqu'au jeûne du mois de Ramadan suivant, tous ces actes ont un effet absolutoire si on évite les péchés majeurs. Regardez cette condition: si on évite les péchés majeurs. Donc, et toutes ces promesses sont une vérité, et toutes ces promesses sont liées avec la foi et l'espoir en la récompense d'Allah, en accomplissant les actes d'adoration dans la sincérité et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Il n'y a aucun doute que le jeûne du mois de Ramadan est lié au fondement principal de la religion, qui est l'accomplissement des adorations sincèrement pour Allah, et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est très clair dans les versets concernant le jeûne, qui ont débuté, comme il est dit dans cette traduction approximative, du sens, où vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la taqwa, la piété, la taqwa. Taqwa, c'est le fait d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, espérant les récompenses d'Allah, et le fait de s'abstenir de ce qu'il a interdit, en ayant peur du châtiment d'Allah. Et aussi, ces versets se sont terminés, ainsi que dans cette traduction approximative du sens du verset, c'est ainsi qu'Allah, toujours dans les versets 2, du jeûne, c'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils atteignent taqwa. Donc, dans le verset 187, dans Sourate la Vache, on remarque clairement que les versets du jeûne ont débuté avec taqwa et ont été clôturés avec taqwa. La place de taqwa, c'est le cœur, comme cela a été si bien clarifié par notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le véridique qui n'a dit que la vérité, celui qui n'a jamais parlé de ses propres passions, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Il a dit un jour, taqwa c'est ici, et il l'a répété trois fois, en montrant sa poitrine, alayhi salatu wa salam. Le cœur de l'être humain, c'est la source du bien et la source du mal chez l'être humain. Comme cela est stipulé dans le hadith authentique, où le messager d'Allah a dit, certes dans le corps, il y a un bout de chair, s'il est bon, tout le cœur le sera. Tout le corps sera bon, et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Et il a dit, c'est le cœur. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. La base du bien de la personne est dans ce que renferme sa poitrine et non dans son apparence. L'apparence suit l'intérieur. Le doué de raison, le digne du conseil pour lui-même, œuvre et prodigue des efforts pour réformer son intérieur. Et son apparence dépend de ce que renferme sa poitrine. Combien dépend de ce que renferme sa poitrine, en bien ou en mal. Ainsi, les adorations apparentes s'accomplissent sur une base, une fondation saine et solide, pour que la personne puisse hériter les effets qui en découlent. Et quand on médite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala citée au milieu des versets du jeûne, dont la traduction approximative du sens nous dit cela, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche, j'exauce le dua de celui qui me demande qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Et avant et après ce verset, Allah a cité les versets du jeûne, dans lequel il y a les règles et les sagesses du jeûne. Le Coran est agencé à la perfection, car il émane de celui qui a la perfection absolue et qui met chaque chose à sa place. Et médite bien dans le verset, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche, je suis tout proche, j'exauce le dua de celui qui me demande qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. La parole de notre souverain, subhanahu wa ta'ala, est la meilleure des paroles. Et l'agencement de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est le meilleur agencement. Et tout cela est fait pour des buts bien précis. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive dans son agencement pour des buts bien précis. Le lien entre ce verset 186, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, avec les versets du jeûne qui l'ont précédé, ils sont qui sont venus après, c'est que le jeûne est nul et non valide sans la fondation principale de la religion, qui est l'accomplissement de la religion sincèrement pour Allah, et qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jeûne dont l'apparence est l'abstinence de boire, de manger et d'avoir des rapports charnels avec ses épouses, il n'y a aucun bien à attendre de cet acte s'il n'est pas basé sur le monothéisme. Et nous avons à méditer cela dans le hadith Qudsi, authentique, où la traduction approximative de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: tout acte du fils d'Adam est pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi, et c'est moi qui le rétribuerai. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Regarde, tout acte de la descendance d'Adam est pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi, il est pour Allah, et c'est Allah qui donne les rétributions qu'il veut pour le jeûne. Cela, comme le clarifient les hommes de science, nous prouve que le jeûneur qui s'abstient de boire, de manger et d'avoir des rapports avec ses femmes, son abstinence émane en général de la sincérité et non de l'ostentation. Car s'il veut se faire voir avec son jeûne, il ne jeûnerait pas. Et en apparence devant les gens, il fait celui qui est en état de jeûne. Et quand il se trouve seul, il mange, boit, accomplit ses rapports charnels avec ses femmes. Qui le saura? Personne. Qui le voit? Personne. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le voit. Donc celui qui se donne l'apparence de jeûner, celui-là en privé, il ne jeûne pas. Mais celui qui jeûne réellement, en s'abstenant des annulatifs du jeûne, selon les conditions dictées par la législation, avec l'intention de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là en général, il n'y a pas à craindre pour lui l'ostentation. Le polythéisme mineur, il n'y a pas à craindre pour lui le polythéisme mineur. Car s'il cherche seulement à se faire voir par les gens, devant eux, il fera le jeûneur. Et chez lui, il fait ce qu'il a envie de faire. Contrairement aux autres actes apparents, comme la prière, l'aumône, le prêche, la recommandation du bien et le blâme du mal, il se peut que la personne prie et donne l'aumône et s'exprime bien dans le conseil en voulant avec son acte Allah et que les gens le voient. Pour que les gens disent, la prière de tel, masha'Allah, il perfectionne bien sa prière. Ou pour que les gens disent, tel est très généreux, t'as pas vu comment il aide les nécessiteux, t'as pas vu comment il aide les centres islamiques, et tel ne craint personne qu'Allah, tu as vu comment il blâme le mal et comment il ordonne le bien. Donc chaque œuvre apparente, il y a à craindre pour l'être humain l'ostentation, sauf le jeûne en général. Mais il y a un danger pour le jeûneur. S'il n'y a pas lieu de craindre le polythéisme mineur pour le jeûneur, il y a à craindre pour lui plus grave que le polythéisme mineur, le polythéisme majeur. Inch'Allah, le jeûneur, qui jeûne comme il se doit, il s'insère avec son jeûne. Mais celui qui se donne l'apparence de jeûneur ne l'est pas. n'est pas un jeûneur réellement. Pourquoi donc le jeûneur délaisse les rapports charnels avec ses femmes, la nourriture, la boisson et patiente et endure pour cela, alors que ce sont des choses que nefs de l'être humain aime et désire. Son ego désire beaucoup cela. Son nefs désire cela. Notre souverain, dont la traduction approximative du sens de ce début du hadith Qudsi a dit, tout acte du fils d'Adam est pour lui. Ce qui veut dire que dans les actes du fils d'Adam s'immiscent les désirs et intérêts personnels, ce qu'on appelle hadd al-nafs, la part du nefs ou la part de l'âme de la personne. La personne a quelque chose en lui dans son intérieur, veut être vu prier, ou être vu donner l'aumône, pour avoir l'estime des autres, ou pour d'autres intérêts. Donc les actes du bien, la part du moi, peut s'immiscer dedans, la part hadd al-nafs, sauf en général le jeûne. Mais le jeûne qui est un acte de délaissement, non, qui voit ce délaissement? Il n'y a qu'Allah qui voit ce délaissement de la personne. Le jeûneur a délaissé la nourriture, la boisson, les rapports charnels avec ses épouses et ceci, et l'opposé de hadd al-nafs, l'opposé du désir intérieur de la personne. Le nefs humain veut manger, veut boire, veut avoir des rapports charnels. Donc le jeûne en lui-même est un opposé à hadd al-nafs, est un opposé au désir du nefs. Donc celui qui patiente sur les désirs de son nefs, il s'abstient volontairement de boire, de manger, d'avoir des rapports avec ses femmes, ne peut être en général que sincère. Qu'est-ce qui le motive à patienter et à s'abstenir de tous ses désirs? Qui le voit quand il est seul? Il n'y a qu'Allah qui le voit et qui sait tout de lui. Donc s'il est réellement en état de jeûne, selon les conditions du jeûne, ce jeûne ne peut être en général que sincère pour Allah. Partant de là, si l'ostentation n'est pas à craindre pour le jeûneur, il y a à craindre pire et plus dangereux pour le jeûneur. Il y a à craindre pour lui qu'il ne demande à autre qu'Allah ce que ne peut faire qu'Allah. Il y a à craindre pour lui d'égorger pour autre qu'Allah. Il y a à craindre pour lui de faire des vœux pour autre qu'Allah. Hein? Et il y a à craindre pour lui le plus grand des dangers qu'on vient de citer, qui est le polythéisme majeur. C'est l'ostentation annule seulement l'œuvre qui l'accompagne, le polythéisme majeur annule toutes les œuvres que l'être humain aura accomplies, même s'ils sont accomplis dans la sincérité et dans le suivi. Toutes ces œuvres seront anéanties avec le polythéisme majeur. Il est dit au meilleur être humain et au meilleur des prophètes alayhi salatu wassalam, et le dernier des messagers alayhi salatu wassalam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans cette traduction approximative du verset 65 et 66 dans surat les groupes Zumar, il est dit, en effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Regarde, à qui s'adresse ce message? À celui qui est impossible qu'il commette un acte de polythéisme majeur. Il n'y a aucun doute là-dessus que c'est impossible que notre messager sallallahu alayhi wa sallam ou n'importe quel prophète et messager puisse commettre du polythéisme majeur. Donc, c'est quoi le but de ce message dans le verset? Ce message adressé à celui qui est mieux que nous tous. Ce message adressé à celui qui a accompli la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et qui l'a transmise comme il se doit, et qui a fait des efforts pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Ce message est pour nous, pour qu'on ne soit pas imbus de nous-mêmes, et qu'on ne se dise pas « je suis musulman, je suis monothéiste, je suis salafi, je maîtrise la aqida, il n'y a rien à craindre pour moi, il n'y a pas à craindre pour moi le polythéisme majeur. » Hein? Quand on médite ce message adressé à l'imam des monothéistes, l'imam de ceux qui ont préservé au mieux les droits d'Allah, Allah lui a adressé ce message, alors qu'Allah sait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne tombera pas dans l'associationnisme. Et cela, ce message, c'est pour que personne ne se croit à l'abri. Personne, ou que personne se croit qu'il est privilégié. Il se dit, je suis salafi, je suis muslim, je suis monothéiste, j'ai une bonne aqida, je ne tomberai pas dans le polythéisme. Abadan akhal islam. L'associationnisme et le polythéisme majeur a détruit plus fort que nous. Plus fort que nous dans la science. Prenons comme exemple un homme proche de nous. Abdallah al-Qasimi. Qui est passé de défenseur invétéré de l'islam à l'athée convaincu. Cet homme est né en 1907 en Arabie Saoudite et il est mort en 1996 en Égypte. Qu'Allah raffermit nos cœurs dans sa soumission. Il est mort athée convaincu. Les écrits qu'il a écrits pour défendre l'islam, il en a fait d'autres, où il critique l'islam, où il attaque l'islam. Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis nos cœurs dans ta religion. Et qu'on médite la parole du Khalil d'Allah, Ibrahim alayhi salatu wassalam, dans ce verset, dans la traduction approximative du verset nous dit ceci, le verset 37, 35, dans Sourat Ibrahim, il dit « Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » C'est Ibrahim, alayhi salatu wassalam, le père des prophètes. Et le Khalil d'Allah a peur de l'associationnisme alors qu'il est élu par Allah et il est un noble messager d'Allah. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Nous les faibles. C'est pour ça que l'un de nos pieux prédécesseurs, Ridwanullah alayhim, a dit « Qui peut être en sécurité de ne pas être éprouvé par le polythéisme après Ibrahim alayhi salatu wassalam ?» Et cela nous montre la gravité du polythéisme. Et qu'on médite la traduction du verset 88 dans Sourate le Bétail, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité un certain nombre de prophètes et de messagers, le verset nous dit, dans cette traduction approximative de son sens, mais si ils avaient donné, le pronom ici revient à ces prophètes cités auparavant, mais si ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Il est impossible que les prophètes et les messagers puissent commettre de l'associationnisme. Mais ce messager, comme l'autre auparavant, est là pour nous avertir contre la gravité et le grand danger du polythéisme. Car le polythéisme majeur anéantit tous les œuvres, peu importe leur quantité, même s'ils sont des œuvres qui sont de l'équivalent de la montagne de Houd, en or, il sera et seront anéantis par le polythéisme majeur. Et peu importe la personne, et peu importe le rang et l'élévation de la personne qui les a faites, du moment qu'il commet le polythéisme majeur, khlas, il a tout perdu. Il n'y a pas de privilège ni de privilégié à ce niveau. Celui qui tombe dans le polythéisme majeur, ses œuvres seront anéanties, il sera du nombre des perdants s'il ne se repent pas à Allah avant la fin de sa vie. Et il est dit dans la traduction approximative du verset 48, dans Sourate les femmes, il est dit dans la traduction approximative du verset 48 dans Sourate les femmes, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Le jeûne ne peut être un jeûne correct qu'en étant basé sur le monothéisme, comme tous les actes d'adoration. Et cela est confirmé au milieu du verset du jeûne par le verset 148, dont la traduction approximative du sens nous dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. J'exauce le dua de celui qui m'implore, qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. » Comment l'être humain patiente et endure la faim, la soif, il s'abstient des rapports charnels avec ses épouses, et avec cela, il voue quelques actes à autre qu'Allah. Cela anéantit toutes ses œuvres, le jeûne et toutes les autres œuvres qu'il a accomplies durant sa vie. Il anéantit la prière, le jeûne, la zakat, le fait d'ordonner le convenable, le fait de blâmer le blâmable. Hein? L'être se fatigue d'accomplir des œuvres durant toute sa vie pour arriver bredouille devant Allah le jour du jugement à cause du polythéisme majeur. Le verset 23 dans Sourate le discernement nous dit, dans sa traduction approximative du sens, nous avons considéré leurs œuvres qu'ils ont accomplies et nous les avons réduites en poussière éparpillée. Imagine, toutes leurs œuvres sont parties en poussière. Durant le mois de Rajab de cette année, notre frère prêcheur francophone Saad Abou Abdelrahman nous a envoyé un morceau d'une vidéo tourné dans une confrérie Tijani, dans un pays d'Afrique du Nord. Hein? Où des Tijani sont réunis tout en respectant les distinctions contre le virus, là. Mais ils demandaient à Tijani de les délivrer de la situation difficile dans laquelle on est actuellement, en disant, ne vois-tu pas, ô Ahmed, la situation difficile dans laquelle nous sommes? Qu'Allah nous en préserve. Louange à Allah pour le bienfait du monothéisme et pour la voix des plus prédécesseurs d'Allah Alim. Où sont partis leurs raisons s'ils en avaient? Comment demander la délivrance à un mort? Est-ce qu'il est permis de demander le secours et la délivrance des difficultés au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou à Jibril? Non, abadan. Comment la demander à un homme qui est mort, qui a englouti la communauté dans un océan d'innovation et de polythéisme majeur. C'est pour ça que certains chrétiens rusés, quand ils se sont assis avec certains savants musulmans, ils ont dit à ces savants, pourquoi vous nous blâmez et vous dites qu'on est des associateurs? Car on dit, ô Jésus, ô Marie, hein? Alors que dans votre communauté, il y a ceux qui disent « Oh Hussein, oh Hassan, oh Ali, oh Siti Zainab. » Hein? Et ces rusés ont dit « Qui est mieux? Ce que nous implorons, les vôtres. » Et ces rusés ont dit à ces savants musulmans, on est mieux que vous, car on est tous d'accord que Isa est mieux que Ali, que Hassan, que Hussein, que c'est Zainab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Tous ceux la cité, ce sont des compagnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Zainab était la femme du prophète alayhi salam. Mais malgré cela, malgré qu'ils sont des nobles compagnons, ils n'atteignent pas la place des messagers. Mais maintenant, frère en Allah, Azza wa Jal, regardez quelque chose qui doit attirer votre attention et à laquelle vous devez faire très attention. L'acquisition de la science. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien lui donne la compréhension de la religion. Il le verse dans la science. Regardez maintenant, méditez cette énorme ambiguïté que ces rusés parmi les chrétiens ont lâché. Et regardez ce degré de bassesse dans lequel tombent les polythéistes. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a répliqué à cette ambiguïté très dangereuse en disant les musulmans qui agissent ainsi, ce sont des ignares qui ont une ressemblance avec vous. Allahu Akbar. Ce sont des ignorants, des ignares qui ont une ressemblance avec vous. Médite la réponse de ce noble homme de science. Le sectarisme ne l'a pas poussé à défendre l'indéfendable. D'où l'importance de se blinder avec la science du livre et de la sunna. Selon la voie et la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Le polythéisme, c'est le polythéisme. Peu importe celui qui l'accomplit, et peu importe qui il implore Jésus, ou il implore Marie, ou il implore Siti Zainab, ou il implore le Hassan ou le Hussein, peu importe qui il implore, il est tombé dans l'associationnisme. Et il est dit dans le verset 64, dans Sourate Al-Imran, dit dans la traduction approximative du sens de ce verset, dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous réservions le culte exclusivement à Allah, sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour des divinités en dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, dites, soyez témoins que nous sommes soumis à Allah. Regardez, venez, la da'wa de l'appel à l'unicité des religions est une da'wa d'insensés, et des gens qui n'ont pas compris ce que c'est que l'islam, ce que c'est que le monothéisme, ce que c'est que la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qu'il dit dans le verset, dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous réservions le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, La ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah. Le monothéisme, c'est la religion de tous les prophètes et les messagers, alayhi salatu wassalam. Tous ont dit à leur peuple, dans la traduction approximative du sens de ce verset, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah. Du'a al-islam, c'est l'adoration, comme l'a dit notre prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith authentique. Le fait de vouer du'a à autre qu'Allah, cela ne peut pas être considéré comme monothéisme. Non et non, jamais de la vie. C'est du polythéisme majeur. Demander à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce que ne peut faire qu'Allah. L'homme dit, « Oh Hussein, aide-moi, secours-moi. Oh Ali, secours-moi. Oh Siti Zainab, donne-moi des enfants. Oh Tijani, sauve-nous, délivre-nous. » Guéris-nous. Si ceci n'est pas du polythéisme majeur, alors c'est quoi le polythéisme majeur? Si ceci n'est pas l'idolâtrie de la période pré-islamique, c'est quoi alors l'idolâtrie de la période pré-islamique? Les prophètes et les messagers d'Allah sont tous des soumis à Allah. On les invoque pas en dehors d'Allah, ni avec Allah. Et le meilleur parmi eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne s'invoque pas en dehors d'Allah, ni avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset 110 dans Sourate la Caverne, dit, ô Muhammad, le message est adressé à notre messager sallallahu alayhi wa sallam, dit ô Muhammad, dit, Je ne suis qu'un être humain, comme vous. Il m'a été révélé que votre unique adoré, c'est Allah. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il ne donne aucun associé à Allah dans ses adorations. Regardez, méditez. Le Coran est descendu pour qu'on le médite. Le Coran est descendu pour qu'on le mette en application. Le Coran est descendu pour qu'on se penche dessus et qu'on comprenne ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous arrivons, inshallah, au mois du Coran, nous devons nous pencher sur les sens du Coran et les mettre en application. Donc, les jeunes, ainsi que les humains, ont l'obligation de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur, s'il n'y a pas à craindre pour lui en général le polythéisme mineur, il y a à craindre pour lui le polythéisme majeur. En implorant autre qu'Allah, en demandant la guérison à autre qu'Allah, en égorgeant pour autre qu'Allah. Et parmi les situations aberrantes, c'est que dans certains pays où il y a des mausolées dans les mosquées, ces mosquées bondent de monde, hommes et femmes, durant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan devient pour certains la saison du polythéisme. Et le comble, c'est que des fois, s'ils trouvent un cheikh sur sa chaise bien enturbané, et qui raconte si le mois de Ramadan, il rappelle aux gens les annulatifs du jeûne, alors que devant lui, des vagues d'hommes et de femmes mélangées font le tour de la tombe, embrassent la tombe, s'essuient le visage avec le tissu de la tombe qui la couvre pour avoir la baraka et la bénédiction du mort. Certains demandent aux morts les enfants. D'autres demandent aux morts, du travail, d'autres d'être mariés. Ils ont urbané par les annulatifs du jeûne, tout en oubliant les annulatifs de l'islam qui s'accomplissent devant lui, tout en oubliant que l'associationnisme majeur et le politisme majeur détruit le jeûne et détruit tous les autres actes. Et il est dit dans la traduction approximative du sens du verset 65 et 66, dont et il est dit dans la traduction approximative du sens du verset 65-66, dans Sourate Zumar, les groupes, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Dans ce verset, dans le sens du verset 65-66, Sourate Zumar, les groupes, il est dit, dans cette traduction approximative, et le message est adressé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Au contraire, voue le culte exclusivement à Allah, et sois parmi les reconnaissants. Et dans la traduction du sens du verset 60, dans Sourate le Pardonneur, il est dit, et votre Seigneur dit, demandez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront en enfer humiliés. Et dans la traduction du verset 186 qui se trouve au milieu du verset des règles et sagesses du jeûne dans Sourate la Vache, nous dit cela, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche, j'exauce le dua de celui qui m'implore, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Donc, aucune œuvre, le jeûne et les autres œuvres ne sont acceptées qu'en étant basé sur le monothéisme et le suivi du messager alayhi salam. Le jeûne est une école où on doit apprendre la sincérité. Est une école où on doit apprendre l'endurance. Est une école où on doit apprendre et s'approvisionner de la taqwa. Il nous incombe de faire beaucoup d'efforts pour réformer nos cœurs et pour nous réformer dans le bien. Et si Allah nous comble de la vie durant le mois de Ramadan, nous devons accomplir ce qu'Allah aime et agrée durant ce mois et de faire la provision de taqwa durant ce mois et de se pencher sur la lecture de la parole d'Allah et de la méditer. D'où l'importance, frère en Allah, Azza wa Jal, de maîtriser la langue arabe pour être à l'aise dans votre lecture du Coran, pour être à l'aise dans l'écoute de l'explication du Coran par les hommes de science, pour être à l'aise à la lecture et à l'écoute, hein, des hadiths et de leur interprétation qu'ont fait les hommes de science. Hein, c'est pas normal qu'on puisse s'endormir sur la traduction. Ceci est anormal. Ceci, pour moi, j'ai toujours donné cette image depuis plus de 20 ans, c'est comme quelqu'un qui a subi un accident. Et, hein, son pied s'est cassé ou s'est foulé, peu importe, et on lui a mis du plâtre. Et on lui a donné des béquilles. Et une fois qu'il a été guéri, on lui a fait des rééducations, hein, pour que le pied retrouve sa force normale. Et pour moi, la traduction, c'est cette rééducation, pour revenir à l'état naturel, hein, du mouvement du pied. Et donc, pour nous, pour revenir à l'état naturel, c'est que nous devons apprendre l'arabe parce que il nous est demandé de comprendre la parole d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam. Et comme il est obligatoire pour nous de les comprendre, donc le moyen qui nous amène à cette obligation, comme l'ont décrété les hommes de science, devient lui-même une obligation. Et qu'on ne s'endort pas. Et maintenant, alhamdoulilah, nous avons beaucoup de frères, même là où ils sont, ils peuvent donner des cours, hein, à travers ces moyens de communication. Tout en étant chez toi, tu reviens de ton travail et tu prends sur toi-même 2 heures par semaine, 3 heures par semaine. Tu te retrouves, par exemple, à Bruxelles ou ailleurs, où il y a un centre salafi et des frères dignes qui enseignent, tu t'orientes vers et tu vas et tu apprends la langue arabe, tu apprends ta aqida authentique pour que tu sois à l'aise dans ta religion, pour que tu sois à l'aise devant la parole d'Allah et la parole de son messager, alayhi salatu wassalam. Beaucoup d'hésitation et de troubles chez nos frères. Pourquoi? Et chez nos sœurs, pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue arabe. Et ils ont, hein, ils sont dans une situation d'hésitation, de doute, etc. Ils demandent ici, ils demandent là, et ils demandent là. Alors que s'ils se sont donné la peine, ils se sont sacrifiés pour maîtriser la langue du Coran et la langue du messager, alayhi salatu wassalam, hein, ils auraient directement, ils s'orienteraient directement vers les hommes de science. Ils comprendraient mieux la parole d'Allah et ils comprendraient, hein, la lecture des, hein, les livres qui ont été écrits dans l'explication du pour le Coran, comme, hein, celui de l'imam Sa'di ou de l'imam Lukatir et autres. Et au niveau du hadith, la même chose. Réveillez-vous, frères en Allah, Zawajal et sœurs en Allah, subhanahu wa ta'ala. Secouez-vous un petit peu. Et avec ça, réveillez-vous la nuit et pleurez Allah, subhanahu wa ta'ala. Implorez-le. Insistez dans votre dua qu'il vous donne là l'apprentissage de cette langue et que vous la facilite. Et il est facile pour celui qui a une ferme résolution et qui est sincère et qui s'oriente vers Allah, subhanahu wa ta'ala, pour le combler de la science de cette langue. Fasa Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'i al-husna wa sifati al-ula, yaj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, innahu waliy dhalika wal-qadiru alayhi, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا